OK, ce soir, on va parler d'un principe qui, si je donne un titre, je n'ai pas vraiment trouvé un bon titre, mais peut-être ce titre, c'est le bon. Les raisons les plus élevées, voilà, ou la raisonnement suprême, c'est une autre manière. Mais, et juste pour parler de ce soir. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire des raisons plus élevées? Si je dois payer mon loyer à la fin du mois et il est le 22, il n'y a pas assez d'argent dans mon compte bancaire pour payer le loyer, ça pourrait être une raison de m'inquiéter actuellement. Voilà. Ça pourrait être une raison de m'inquiéter. Mais il y a une raison supérieure, il y a une raison plus élevée. C'est normalement, je suis payé le 25 ou le 24, parce que c'est un week-end. Si cette raison-là enlève mon inquiétude vis-à-vis de mon loyer à la fin du mois, parce que je suis conscient de cette raison suprême, sur la raison qui pourrait me faire des soucis. Donc, il est invalidé. La bonne, semblant bonne raison pour me faire des soucis est annulée par une autre raison, une autre vérité, une autre, voilà. Voilà, vérité, je présume, j'espère, mais normalement, c'est le cas. Mais une autre, c'est tu veux. Ouais, c'est déjà bon. Ça, c'est le principe. Ce n'est pas des. Comment on dit seagulls en français? Il n'y a pas des mouettes sur le pupitre, mais ici. Mais on dirait par le bruit. Ou un bateau sur le bord du lac. OK, je vais essayer de ne pas toucher. Ou bien je vais juste visser une petite vis. Il y a une raison suprême de ne pas. Voilà, c'est fini. OK. Et on va appliquer ce principe à trois problèmes majeurs qui existent sur la planète Terre, chez les hommes. Et on a parlé de temps en temps, on parle de ces choses. Pasteur Tony. Ils les connaissent bien parce qu'il a traduit un livre sur la psychologie biblique. Et il a en parlé, moi j'ai peut-être parlé aussi. Trois choses qui viennent de la chute, qui sont des problèmes chez les hommes. Et ça se trouve en Genèse 3, versets 7 à 11. Et ces problèmes affligent la race humaine depuis le début. C'est la culpabilité. Ils ont été coupables parce qu'ils ont transgressé le commandement de Dieu, l'ordre de Dieu. Ne mange pas de ce fruit-là, mais ils ont mangé. Donc, ils étaient coupables. Et cette culpabilité a généré chez eux la peur. Parce que quand Dieu, ils ont entendu Dieu dans le jardin, ils se sont cachés. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient mal fait, coupables. Mais la culpabilité a mené à la peur. Et puis, ils avaient aussi la honte. Parce que le moment qu'ils ont mangé, leurs yeux étaient ouverts. Et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Maintenant, ils avaient honte vis-à-vis de leur état. Voilà. Et ces trois choses, des grands problèmes, c'est des bonnes raisons pour lesquelles il y a des bonnes raisons pour ces choses sur la terre, c'est ça que je veux dire. Il y a des bonnes raisons pour la culpabilité, la peur et la honte. Dans la vie et chez les hommes, partout. Et on dit que c'est plus accentué la peur en Afrique, En Asie, c'est plus accentué la honte. Et en Europe, au monde occidental, c'est plus accentué la culpabilité. Mais les trois sont partout. Les trois sont partout aussi. Mais c'est intéressant comme observation. Et une chose, c'est que chez les hommes, surtout ici dans le monde occidental, qui sont affligés par la culpabilité et la honte et la peur, souvent ils blâment ou ils accusent nous, les chrétiens, ou bien les religieux tout court, ou les religions, pour ces choses. Que si on pourrait enlever la religion et les religieux, ben on n'aura plus de culpabilité. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et on n'aura plus de honte parce que ce qu'on est, ça va. Et quoi, la peur, bah, ils auraient toujours la peur parce que le prochain, s'il veut faire ce qu'il veut, il peut me tuer. Donc, je ne sais pas s'il va traiter la peur, mais la peur vis-à-vis de Dieu, oui. La peur vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est la plus grande des peurs, quelque part. La peur vis-à-vis de la mort et vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute, les chrétiens. Mais, parce que nous sommes les seuls à apporter des vraies solutions pour ces trois problèmes. Avec l'Évangile, nous avons la solution ou les solutions pour ces choses. Mais notre présence quand même rappelle aux gens de leurs problèmes. Peut-être ils auraient moins honte si on n'était pas là. Peut-être ils seraient moins coupables si on n'était pas là. Et voilà, ils auraient moins peur vis-à-vis de Dieu. Mais Isaïe 55, 7 à 9, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. En fait, je vais sauter ce verset. On va juste aller dans les points, trois points de ce message, parler de ces trois sujets. Mais il existe des bonnes raisons suprêmes pour ne pas vivre selon les résultats de la chute. Donc, nous avons des bonnes raisons pour ne pas vivre dans la culpabilité, dans la crainte et dans la honte. Et même si on a entendu ces sujets plusieurs fois, j'espère et je prie et je pense, parce que c'est le message que j'ai eu pour aujourd'hui, que ça va être fraîche pour nous tous. Et pas une révision, mais fraîche, parce que moi, j'avais besoin de ce message, et j'ai besoin de ce message, je crois. Sur certains points, en tout cas, mais voilà, on a tous besoin de la parole de Dieu. Et je crois que c'est le message pour ce soir. La culpabilité, il y a un raisonnement plus élevé ou des raisons suprêmes pour ne pas vivre selon la culpabilité. Voilà. Il y a de bonnes raisons pour vivre dans la culpabilité. Il y a des bonnes raisons déjà. Commençons avec ça. On est coupable. Le monde est coupable. C'est une bonne raison pour vivre dans la culpabilité, pour se sentir coupable. Ce n'est pas sans bonne raison que le monde, que des hommes et des femmes sur cette planète se sentent coupables. Mais nous, les enfants de Dieu, on a une bonne raison et des bonnes raisons pour ne pas vivre selon la culpabilité, même si on est coupable. Une illustration, Jean 8, la dame qui est venue, qui a été amenée devant Jésus, elle était coupable. Elle a péché. Selon la loi, elle méritait d'être lapidée. Elle avait peur aussi de mourir, mais Jésus lui a dit, Ben, il a dit aux accusateurs, c'est lui qui n'a point péché, il lance la première pierre. Et puis les paroles, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, il ne pêche plus. Ça, c'est une raison plus élevée pour ne pas vivre dans la culpabilité. Quand Jésus te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu n'es pas condamné. Et c'est la vérité pour chaque enfant de Dieu. Jean 5, est-ce que c'est verset 24? Ne vient point en jugement. Celui qui croit en moi ne vient, est déjà passé de la mort et la vie, à la vie, et il ne vient point en jugement, en condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une raison plus élevée. L'enfant de... Et ça, c'est intéressant. J'ai lu ce matin... En 1 Jean 2, versets 12 à 14, Jean il s'adresse à trois groupes de personnes dans le corps de Christ. Trois catégories dans le corps de Christ. C'est dans le masculin, mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Et pas toujours dans le masculin même. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, il y a des petits enfants, il y a des jeunes gens, ou des jeunes gens, c'est comme ça, c'est écrit. Jeunes gens. Et les pères. Donc, moi, je comprends ça comme trois niveaux de maturité dans la marche avec Dieu. Et quand on est petits-enfants avec Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre encore et encore et encore et encore? Parce qu'on a cette double nature, la nature pécheresse en nous et la nature de Dieu, de Christ en nous, qui ne peut pas pécher, mais la nature, la vieille nature pêche. On a tous besoin d'entendre ça et le long de nos vies, mais encore plus au début. Que vos péchés sont pardonnés. Vos péchés sont pardonnés, jeunes enfants, petits enfants. Encore, ils ont besoin d'être solidement fondés dans cette réalité que le péché a été traité. 1 Jean, le même livre, chapitre 1, verset 9, c'est... Bah, si nous disons que nous n'avons pas péché, verset 8, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et plus loin, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si, mais dans cette introduction, si, c'est le même mot en grec, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il y a un pardon là. Il y a un avocat, les péchés sont pardonnés, la victime expiatoire, c'est Jésus-Christ. Et voilà. L'enfant de Dieu a besoin d'être consolé là-dedans, de ne pas vivre selon la culpabilité. La culpabilité vient lorsque quelqu'un pêche, et c'est normal, et c'est selon des bonnes raisons. Mais si c'est un enfant de Dieu, ils doivent trouver une raison plus élevée, une raison pour ne pas vivre selon cette chute. Et c'est le sang de Jésus-Christ. Sa conscience est purifiée par le sang de Jésus-Christ, Hébreux 9, 14, pour ne pas vivre ici-bas et continuer dans les œuvres mortes, parce que celui qui est coupable, il y a des fausses solutions dans le monde. Et certaines fausses solutions sont des œuvres mortes, par exemple. Je vais moi-même récompenser Dieu pour mon péché. Je vais faire des bonnes œuvres. Pendant que je vis dans la culpabilité, toute œuvre que je fais, c'est mal motivé. C'est pas motivé par l'Esprit de Dieu. C'est motivé par ma culpabilité. Et c'est indépendant de Dieu et c'est mort. Ça n'a pas de vie dedans. Ce que j'ai besoin, si j'ai de la culpabilité, c'est d'abord d'être purifié dans ma conscience, de venir devant le trône de la grâce. Père, pardonne-moi. Merci pour ton pardon. Ça ne me fait pas... Les gens, ils disent que ça, oh, c'est trop facile. Les gens vont beaucoup pécher. Non, les gens vont moins pécher. Parce que tant que tu n'as pas réglé la chose, tu vas continuer dans le péché. Tu es accroché à la vieille nature jusqu'à ce que ta conscience soit purifiée. Et c'est la clé de notre victoire, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le pardon. Et quand je suis pardonné, maintenant, je peux lever la tête et je peux servir le Dieu vivant. Parce qu'il m'a rendu digne pour le servir par son sang. Et si je pense toujours, non, je suis le grand coupable. Je suis le grand coupable. Je ne peux pas servir Dieu. Je suis trop conscient de moi-même. Voilà. Et ça va avec la honte aussi. Mais, donc, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est la solution pour la culpabilité. C'est une raison plus élevée pour ne pas vivre selon la chute. Et next, la crainte. C'est le grand sujet du soir, peut-être. C'est la crainte. Une raison suprême pour ne pas vivre selon la crainte. Nous avons des raisons suprêmes pour ne pas vivre selon la crainte. Pas juste la crainte du jugement de Dieu, mais la crainte tout court. Parce qu'il y a d'autres craintes qu'un enfant de Dieu pourrait avoir. Et parce que, est-ce qu'il y a des raisons pour avoir peur dans ce monde? Est-ce que Robert aurait des raisons d'avoir peur des fois sur le lac s'il y a un orage qui s'élève et il est sur son, je ne sais pas quoi, son... Peu importe quel moyen de transport, mais il pourrait y avoir des bonnes raisons d'avoir peur. Et il a sûrement eu peur des fois dans sa vie sur le lac de Genève. Son lac, moi je l'appelle le lac de Robert. Mais voilà. Mais il y a des dangers dans ce monde, et pas que sur le lac de Genève. Il y a des dangers. Des vrais dangers, des vraies raisons pour avoir peur. Mais Dieu, il nous dit tellement de fois, ne craignez pas, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. C'est le bon plaisir du Père de vous donner le royaume. Un exemple, Deutéronome 31:6. Josué, Moïse, Dieu, il parle à Moïse et au peuple. Et à Josué, et fortifiez-vous et ayez du courage, parce qu'ils vont aller dans une terre où il y aura la guerre, ils auront des ennemis, et voilà, mais Dieu les a promis cette terre, mais ça fait peur, parce que c'est des géants, c'est des villes fortifiées, il y a des vrais dangers là-bas, et ils pourraient mourir dans la bataille. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Est-ce qu'ils auraient des bonnes raisons d'avoir peur? Oui, mais il y a une raison plus élevée de ne pas avoir peur. C'est la promesse de Dieu. C'est Dieu qui dit, je vais avec vous. Je vous donne une promesse. Et cette promesse, il redonne à Josué directement, verset 8, « L'Éternel marcherait lui-même devant toi. » Parce que Josué, il avait sûrement plus peur que les restes, parce que c'est lui qui devrait diriger le truc, et il savait qu'il n'était pas capable. Mais « L'Éternel marcherait lui-même devant toi, il serait lui-même avec toi. » Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, Josué. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc, s'il disait ça, c'est parce qu'il fallait le dire. Dieu ne dit pas des choses pour rien. Il savait qu'ils avaient peur. Il savait qu'il y avait une peur chez son peuple. Et il fallait leur balayer cette peur avec quelques promesses. Et Dieu, il est bon à balayer la peur. Il est capable de le faire. Même quand on pense que la peur va nous envahir, nous tuer, même lui-même, la peur, même pas les dangers, Dieu, il peut balayer la peur. Il a fait tellement de fois dans nos vies. Hébreux 13, 5 et 6, ça c'est pour nous maintenant. Parce qu'on peut dire, ouais, ça c'est pour Josué et les gens dans le désert, mais ça c'est pas moi. Et Hébreux 5, 13, 5 et 6, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. C'est drôle, on ne met pas toujours l'introduction de ce verset avec la fin du verset, mais c'est applicable. On pourrait chercher notre sécurité dans l'argent et penser que l'argent va nous sécuriser dans ce monde. Si j'ai assez d'argent dans mon compte, même si je dois me faire tester 1000 fois, ça va aller. C'est juste un exemple. Ou si je perds mon boulot, ça va aller parce que j'ai un grand compte bancaire là. Et ça va durer plusieurs mois, comme le monsieur qui a construit les barns, les greniers plus grands pour être à l'aise pendant des années, il allait mourir. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Il va pourvoir, il va pourvoir pour vos besoins. Il ne va pas vous abandonner là. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Wow, ça c'est une promesse pour nous. Nouvelle alliance, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. J'ai un exemple personnel. On dit que des fois, pas trop d'exemples personnels, mais dans l'homélétique. Mais c'est un témoignage, donc c'est un témoignage personnel de moi, pour moi-même. Psaume 31, versets 14 et 16. Quand on est allé en Afrique, on a été une équipe de 5 personnes missionnaires qui sont allées en 2009, d'abord au Togo, pendant 3 mois. Avant d'aller au Bénin. Et on voulait aller au Togo, visiter les églises, connaître les frères et sœurs au Togo, c'est juste voisin avec le Bénin. Et puis préparer notre aller dans le Bénin et trouver un endroit logé, aller, voilà. Après un mois là-bas, déjà en allant, dans mon corps, bizarrement, comme j'ai jamais eu de ma vie, je me sentais mal, quoi. Je me sentais pas bien dans mon corps, comme malade, comme si j'avais une vraie maladie, mais je savais pas quoi. Et pour aller en Afrique, l'intimidation de l'atmosphère pour moi, c'est tu vas aller mourir là-bas. Tu vois, tu vas en danger, tu vas te mettre en danger, et t'es déjà malade, faible. Mais j'avais cette pensée que je suis sûr venait de Dieu, c'est si je ne vais pas, je vais mourir. C'était ça ma pensée. Si je ne vais pas, peut-être je vais mourir, mais faisons la volonté de Dieu. Et voilà, ce qui m'arrive, m'arrive, mais je vais faire la volonté de Dieu. Et j'étais convaincu que Dieu voulait que j'aille. Donc, voilà. Et j'avais écrit dans un livre, l'endroit le plus dangereux pour moi, c'est hors de la volonté de Dieu. Donc, peu importe ce que Dieu nous appelle à faire, c'est le meilleur endroit à être. Voilà. Amen. Yes. Et ce qui se passait après un mois, on voyageait beaucoup, on bougeait beaucoup et on ne dormait pas toujours beaucoup. Il faisait chaud. Et des fois, on poussait un peu, on faisait des week-ends dans ce village, et un week-end ici, et dans la semaine, on était occupé. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai malgré les médicaments que je prenais pour le palu, contre le palu, j'ai eu une crise de palu après un mois, à peu près au Togo. Et voilà, une crise de palu, ça peut, il peut y avoir des graves crises ou des moins graves. On va dire que c'était moins grave, mais c'est, ça m'a fait louper le culte du soir, mercredi soir, pour la première fois en 10 ans. Et j'ai été malade avant et suis allé au culte. Mais à l'époque, rien ne pouvait me... Mais j'étais collé au lit dans une bain de transpiration. Voilà, même mes pensées, je n'arrivais pas à réfléchir, voir la lumière, ça faisait mal. Je n'avais pas faim. Voilà, et ça... C'était pas bien, mais en fait, écouter un message m'a ranimé. Et même si je ne voulais pas l'écouter, je l'ai mis sur mon iPod et je l'ai laissé sonner. Et à moitié chemin dans le message, j'étais un nouvel homme, quoi. J'allais mieux. Et puis j'avais du nouveau faim, je suis allé et il se trouvait qu'ils m'avaient laissé à manger sur la table, parce que tout le monde était allé au culte. Il m'avait laissé à manger, donc j'étais content, j'ai pu manger, j'avais faim et j'étais mieux, j'allais mieux. Donc c'était une petite, mais voilà, différentes choses me sont arrivées dans cette période, mais j'ai eu un réma, un verset dans les psaumes, psaume 31, 14 à 16, et ça m'a beaucoup encouragé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assaillé, je ne sais pas comment dire ce mot, assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Et est-ce qu'on a un ennemi qui aimerait nous tuer? Oui, c'est un meurtrier dès le début. Il aime tuer les gens. C'est pour ça qu'il y a tellement de n'importe quoi qui se passe. Mais voilà, il aime tuer les enfants aussi. Mais voilà, il aime tuer les gens. C'est un meurtrier dans toutes les façons qu'il peut trouver. Il aime tuer les gens. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. En anglais, c'était ma vie est dans ta main. Et mes destinées sont dans ta main. C'est pas dans la main de mes ennemis. C'est David qui parle. Il avait des vrais ennemis, des hommes qui voulaient le tuer. Et il cherchait à le tuer. Et j'imagine qu'il sentait le danger, la crainte. Ben, imagine si le conseil fédéral voulait tuer Pasteur Tony. Non, je ne sais pas, jamais. Mais si... Il reçoit un appel d'Alain Bercé, « T'es un homme mort. » Non, je doute. Mais voilà, en nous priant pour nos conseils fédéraux qui les arrive jamais, cette pensée. Il se sentait un peu désécurisé, peut-être. Hein. Où est-ce que je vais aller? Il y a des caves dans le Salève, peut-être je vais aller là-bas. Je vais devoir apprendre à chasser. Voilà. Mais David, il avait le roi qui voulait le tuer de son pays. Et c'était encore pire parce que c'était quelqu'un qu'il aimait et qui servait avec tout son cœur. Et voilà. Mais vrai danger. Mais il a pu déclarer une vérité supérieure à cette vérité qu'il était en danger, c'est que mes destinées sont dans ta main. Dieu, toi, tu es mon Dieu, mes destinées ne sont pas dans la main de Saül, ne sont pas dans la main des Philistins, ne sont pas dans la main de Goliath, ne sont pas dans la main du palu ou du COVID d'un virus, quoi que ce soit, ou une bactérie. Mes destinées sont dans la main de Dieu. Ou d'autres choses qui pourraient nous faire peur. Ce n'est pas dans la main de ces choses ou de ces personnes, mais ou dans d'un avion, mécanique d'un avion qui pourrait éventuellement échouer. Ma vie est dans les mains de Dieu, dans la main de Dieu. Et une bonne raison pour ne pas avoir peur. Une raison suprême pour ne pas avoir peur d'être tué par quelque chose qui ne devrait pas me tuer. Si c'est le plan de Dieu, ça c'est le plan de Dieu. Mais c'est dans la main de Dieu quand ça arrive. Toutes choses concourent pour le bien, pour ceux qui aiment Dieu, sont appelées selon son dessein, ses desseins en français. Donc, et ça, ça m'a beaucoup consolé quand j'étais là-bas. Donc, un autre verset sur ce sujet, Philippiens 4, verset 6, l'anxiété qui est liée à la peur, une conséquence de la chute. Je ne pense pas que Adam et Ève connaissaient l'anxiété avant la chute, mais l'anxiété s'est installée dans la race. L'anxiété, ne vous inquiétez de rien. Et inquiéter, c'est ce mot, je ne me rappelle pas, mais être troublé par des soucis, c'est une des définitions. Être troublé par les soucis. Qu'est-ce qui va arriver demain? Comment le pays va aller demain? Comment serait le résultat de la votation? Je pourrais m'inquiéter pour des votations politiques. Je pourrais m'inquiéter pour beaucoup de choses, mais la Bible dit clairement, il n'y a pas de « non, mais sauf dans le 21e siècle, parce que vous avez vraiment des bonnes raisons pour vous inquiéter. » Et je pense que les lecteurs, ils avaient plus de raisons que nous pour s'inquiéter. On les tuait pour leur foi. On les mettait devant les bêtes sauvages dans les Colosseums avec leurs enfants comme spectacle. Ça, c'est un sujet d'inquiétude, je pense. Moi, je pense que je m'inquiéterais si je pensais que ça allait m'arriver. Mais il dit ici à eux, donc s'il dit à eux, c'est supérieur leur inquiétude que la nôtre, c'est une raison supérieure à s'inquiéter que toutes nos raisons possibles. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça, c'est un point important. Des actions de grâce, c'est avec reconnaissance. Je suis reconnaissant pourquoi devant Dieu? Bon, pensons à des raisons. Et beaucoup de ces raisons vont être supérieures à des raisons qui me font inquiéter. Merci Seigneur, car j'ai la vie éternelle. Ah, mais toutes ces autres choses sont inférieures. Ce qui m'arrive demain, c'est inférieur à la vie éternelle. Je pourrais tomber de l'estrade, me casser la gueule. Peu importe, j'ai la vie éternelle. J'ai tombé de mon vélo. J'ai la vie éternelle. Ça va me faire mal. Ok, mais j'ai la vie éternelle. Si je pense à la vie éternelle en disant merci à Dieu, ça va déjà me soulager un peu. Peut-être beaucoup. Des sujets de reconnaissance. Dieu, tu es bon. Tu es fidèle, tu ne changes jamais. Seigneur, toutes tes promesses sont oui et amen. Tu vas régner. Même aujourd'hui, j'ai prié la prière du Seigneur, comme je n'ai jamais prié cette prière de ma vie. Parce que des fois, on peut se dire, comment prier? Je ne sais pas comment prier là. Bon, prie la prière que Jésus a donnée à ses disciples. répétition comme si tu es à l'école, mais avec en pensant à ce que ça veut dire. Notre Père qui est aux cieux, saint est ton nom. Il n'y a rien comme toi. Mais à la fin, juste un truc à la fin, for yours is the king. Car à toi, comment ça se dit en français? À toi appartient la reine. et la puissance et la gloire à jamais. C'est lui qui va régner, le royaume de Dieu. Ça, c'est un sujet de reconnaissance. Il est proche, le royaume de Dieu. Une dirigeante parfaite sur la terre, par celui qui connaît tout. Les hommes pourraient avoir des bonnes motivations. On ne connaît pas leurs motivations. Mais ils pourraient avoir des bonnes motivations, mais ils sont très limités. Ils sont très limités. Dieu, il est parfait. Et voilà. Mais, et juste le deuxième verset, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, il y a une paix de Dieu qui infiltre notre cœur et ça nous élève plus haut que la chute dans mon cœur, les effets de la chute, les pensées bas, les pensées humaines. C'est les pensées qui sont plus élevées qui viennent maintenant dans mon cœur. Et Dieu il me donne surnaturellement sa paix. Peu importe les raisons de s'inquiéter, il me donne des raisons à être en paix. Et même sans raison, il me donne la paix. Il n'a même pas besoin de me donner des raisons, en fait. Mais il nous donne ses pensées. Et il nous donne, il y a des raisons derrière la paix qu'il nous donne déjà. Troisième, des raisons supérieures ou suprêmes afin que nous ne vivions pas selon la honte. Et en Genèse 3, ils avaient honte, donc. C'est pour ça qu'ils ont semé des feuilles de figuier. Ils ont essayé de couvrir leur... Ils étaient conscients d'eux-mêmes. En fait, c'est ça leur problème. Et c'est souvent le problème chez les hommes, c'est la conscience de soi-même. Au lieu d'être conscient de Dieu et des promesses de Dieu et l'amour de Dieu, conscience de soi-même. Et ça amène à la honte. Et les hommes, ils ont des fausses solutions pour la honte. Se couvrir, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Se cacher derrière une couverture. Maintenant, je ne suis pas en train de critiquer le fait d'avoir des beaux habits et tout ça, et le maquillage et tout ça, et se faire, voilà, couper des cheveux. Parce que Tony s'est fait couper les cheveux hier. Non, mais moi, j'ai besoin aussi. Mais ce n'est pas une vraie solution pour la honte de s'habiller bien. Et on s'habille bien si on peut, pour la gloire de Dieu, on peut le faire avec des bonnes motivations et pour des motivations d'amour et tout ça. Mais prendre soin de notre apparence, notre corps physique, c'est tous louable avec les bonnes motivations. Mais ça peut être une fausse couverture pour les gens. Ils se cachent derrière le beau costume, tu vois. C'est possible, parce qu'il a honte de son apparence. Mais plus profonde que ça, parce que ça, c'est juste sur la surface, les hommes essayent de se prouver. Ils ont honte. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, dans leur état, devant Dieu et devant les hommes aussi. Donc, ils peuvent essayer de se prouver, ils passent leur vie à essayer de se prouver. Non, non, je suis quelque chose quand même. Il y a un film de Billy Graham, son association avait fait un film qui s'appelle La Montée. La Montée, c'est deux alpinistes, et un est chrétien et un n'est pas encore chrétien. Et celui qui n'est pas encore chrétien, il a quelque chose contre son papa. Il veut se prouver à son papa qui les a quittés quand il était petit. C'est fiction, mais voilà. Mais l'idée existe dans le monde. Et il faut toujours se prouver qu'il est quelque chose devant son papa. Il monte une montagne, il crie à son papa depuis le haut de la montagne. « Voilà, tu vois ce que j'ai fait ?» Tu vois. Et l'homme, il fait ça dans beaucoup de domaines pour essayer de couvrir sa honte parce qu'il sait qu'il n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Et il a honte, mais il veut changer lui-même. Il se rend fort ou se mentir aussi. Dire que oui, je devrais avoir honte. Non, mais non, c'est pas honteux ce que je fais. Je vais le faire devant tout le monde, d'ailleurs. Et c'est pas honteux. Malheur à vous si vous dites que c'est honteux ce que je fais. Et ça, c'est très fort dans notre société aujourd'hui. Un genre de défiance à la honte. Mais la honte, il reste. Hein. Je suis désolé. Hein. Vous pouvez essayer de dire que ça n'existe pas. Ça existe, et c'est là. Et c'est un effet de la chute, du chute. Se cacher dans les ténèbres ou éliminer la source de la lumière. C'est une manière d'essayer de solutionner ma honte. C'est, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi au bureau et il brille. Et avec Jésus-Christ. Et je veux l'éliminer parce qu'il me fait honte. Il illumine mes problèmes. Quand je suis avec lui, je réalise que j'ai des problèmes et je n'aime pas ça. Et voilà, parce que je pensais que j'étais quelque chose. Mais maintenant, je réalise qu'il me manque des choses. Il me manque des boulons et des... Voilà. Non, il me manque des qualités qui sont comme celles de Dieu. C'est pour ça que les pharisiens, ils ont voulu éliminer Jésus parce qu'il les faisait honte. Il leur faisait honte, on dit ça. Parce que Jésus manifestait les défaillances, non, les manquements des pharisiens. Ils étaient religieux, mais sans la vie de Dieu et ils pensaient être propre juste, mais Jésus, il mettait une spot comme ça sur eux. Tu vois les spots que des policiers quand ils sont dans les hélicoptères, une grosse spot sur eux. Il dit, ah oui, vous êtes juste. Et avec le spot, on voit des vers de terre qui sortent et toute la pourriture qui est dans l'homme. Mais eux, ils voulaient l'éliminer. Au lieu de s'humilier, ils voulaient l'éliminer. Voilà, la source de la lumière. Mais l'homme ne peut pas ultimement éliminer la source de la lumière, qui est Dieu. Donc le problème, c'est qu'il y a des bonnes raisons d'avoir la honte. Et nous avons tous des bonnes raisons pour avoir honte de nous. Mais la raison supérieure, notre nouvelle identité en Jésus-Christ, Dieu, il dit, voilà, nous sommes rendus agréables en son bien-aimé. Éphésiens 1, 6, ça c'est la version Bible de la Bible annotée, mais la Darby aussi. Il nous a rendus agréables en Jésus-Christ, dans son bien-aimé. Je suis le bien-aimé de Dieu. Peu importe les raisons pour ma honte, si Dieu me donne une raison supérieure, c'est bon. Je peux vivre selon les raisons supérieures au lieu de vivre selon les raisons inférieures et manquantes. Parce qu'une raison qui n'a pas toute la vérité, il est faux. Il y a du mensonge là-dedans. C'est pour ça que quand on étudie des choses et on fait des décisions, on a vraiment besoin de la sagesse d'en haut parce que nos raisonnements et nos recherches pourraient nous amener sur un chemin de mensonge. Il faut vraiment que Dieu nous guide. On a besoin de... Voilà. Et on ne peut pas se confier parce que aux raisons inférieures. Voilà. Mais ainsi, dès maintenant, 2 Corinthiens 5, 16 et 17, et on va terminer bientôt. nous ne connaissons personne selon la chair. La chair présente des raisons pour que mon frère ou moi-même ou ma sœur pourrait avoir honte. Et je pourrais avoir honte d'eux, ou vous pourrez avoir honte de moi. Mais nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une bonne raison pour ne pas avoir honte. Je suis une nouvelle créature devant Dieu. J'ai une liste de 255 vérités de qui nous sommes et ce que nous sommes devenus en Christ. Il y a une autre liste de 101 que Pastor Luigi a amené à son... Mais j'ai une liste de 255 et c'est grandi. Mais il y a beau, parce que la Bible, il y a différents aspects des mêmes choses aussi. Mais c'est juste pour être précis. Mais déjà, nous sommes les enfants de Dieu. Ça n'a pas encore été manifesté ce que nous sommes. Attends, c'est quoi? On va lire ce verset, parce que ça, c'est un bon verset. 1 Jean 3, verset 2. Je vais le trouver. Et on va, ça va être notre dernier verset. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous serons en expérience n'a pas encore été révélé. En 1 Corinthiens, je ne vais pas le lire parce que je vous ai promis, je ne vais pas le lire d'autres versets, mais 1 Corinthiens 13, nous voyons comme dans un miroir obscurci, comme si c'est un miroir sale. Nous voyons nous-mêmes de manière obscurcie, mais on va un jour se connaître comme on a été connu tout le long par Dieu. Dieu nous connaît selon son Fils. Nous sommes dans son bien-aimé. Et il nous voit parfait en Jésus-Christ. Et pas besoin d'avoir honte. Une bonne raison pour ne pas avoir honte. Si la honte nous arrive et la culpabilité avec, courons vers la croix, courons vers lui et appliquons de manière fraîche l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, réclamons devant Dieu ce qu'il a accompli pour nous. Et voilà, juste parce que le problème d'identité, c'est ça, la honte, c'est lié à l'identité. Et Dieu nous donne des raisons supérieures d'avoir une bonne identité, qui n'est pas conscient de lui-même, mais aussi d'être conscient des raisons suprêmes de la vie se trouvent dans qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et qui il nous a rendus en Jésus-Christ. Et ça, c'est des raisons suprêmes derrière tout ce qu'on devrait vivre dans la terre. Donc, nous, que la parole de Dieu soit la source de notre raisonnement et la connaissance de Dieu soit à la base de tous nos raisonnements. Cherchons et vivons selon le raisonnement suprême. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, on va prier. Et merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole, tes promesses et tes déclarations qui balaient la crainte, la culpabilité et la honte de nos vies et de notre conscience, et pour qu'on puisse vivre au-dessous du naturel sur cette planète, Et en attendant ton royaume et ton revenu, et Seigneur, merci pour ton enlèvement, mais merci Seigneur, attire toujours nos cœurs vers ces vérités élevées, Seigneur, ces pensées plus élevées que les nôtres, sur des choses qui sont en haut et pas celles qui sont sur la terre. Que nous ne soyons pas distraits, Seigneur, dans nos cœurs par des choses plus bas qui nous font peur ou qui nous font honte ou qui nous font rendre coupables. Même s'il y a de la vérité, Seigneur, aide-nous à chercher toujours tes vérités, ta perspective sur toutes ces choses, Seigneur. Et toi-même, Seigneur, nous voulons te connaître comme des pères, les pères dont Jean a parlé, qui connaissent celui qui est depuis le début. Et la connaissance de toi aide-nous, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs vivent dans ce repos-là, Seigneur. La paix, ta paix que tu nous donnes. Merci pour ta paix, Seigneur. Bénis chacun de nous, chacune, au nom de Jésus. Avec la paix, Seigneur, avec la paix. Bénis chacun, chacune avec ta paix. Au nom de Jésus, amen.